Qu'est-ce qui a rendu la langue française universelle? Pourquoi mérite-t-elle cette prérogative? Est-il à présumer qu'elle la conserve? On sait que c'est à ces questions que répondit Rivarol en écrivant son fameux discours sur l'universalité de la langue française. Aujourd'hui, c'est la radiodiffusion française qui pose le sujet. Et je crois mesurer comme il convient l'honneur et la responsabilité dont elle me charge.
Aussi, nous sommes en prise avec une vaste responsabilité, comme Georges Leroy à l'époque, en 1945, sociétaire de la Comédie-Française, sur la nécessité du respect, donc, de la langue. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie et de la langue française, Emmanuel Macron prononcera un grand discours de relance de la francophonie dans l'après-midi à l'Académie, avant de se rendre en octobre en Arménie pour un sommet international. Je ne fais pas partie des défenseurs grincheux, je suis là aussi un défenseur conquérant et ambitieux. Comment promouvoir le français dans le monde? Mais d'abord, quel français et qui s'en préoccupe encore? Notre invité plaide pour une langue ouverte et une nouvelle universalité du français. Le linguiste Bernard Cerchiglini, recteur honoraire de l'Agence universitaire de la francophonie, un réseau de 800 universités utilisant la langue française dans une centaine de pays, ancien délégué général à la langue française et auteur en 2016 de « Enrichissez-vous ». Parler francophone, il est aussi le contributeur, l'un des contributeurs du nouveau numéro des indispensables du journal Le 1, Le français a-t-il perdu sa langue? Ouvrage dirigé par Éric Fotorino. Le français, une langue mondialement partagée qui n'aurait rien à envier à l'anglais en termes de vitalité. On va en parler avec vous. Bonjour Bernard Cerchiglini.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Une posture offensive, c'est ce qu'on entend en tout cas dans les mots du président de la République depuis quelques mois sur ce terrain de la francophonie. Cet après-midi, il sera à l'Académie française pour y prononcer son discours. Vous aussi, d'ailleurs. Ça ne veut pas dire pour autant que vous l'ayez écrit, ce discours. Vous ne savez peut-être pas tout. Voilà. Vous avez une idée de ce qu'il peut ou va annoncer?
Je crois que les pleurs sont terminés. Depuis le 18e siècle au moins, on sort le mouchoir pour dire que le beau temps est passé, il faut cesser, il faut rappeler qu'on n'a jamais autant parlé le français, on l'a jamais autant écrit, on l'a jamais autant enseigné, il faut donc être conquérant et audacieux. Ça sera un discours très très positif et c'est ainsi que nous l'attendons.
Qui pleurait à l'époque ou qui continue aujourd'hui parfois à se plaindre d'un français en déclin? Ceux qui n'ont rien compris, qui ne voient pas que le français continue à être dynamique, que son nombre de locuteurs continue à grandir un peu partout dans le monde et que c'est une langue qui n'est pas affaiblie, qui n'est pas fragilisée, notamment par la concurrence de l'anglais?
Il y a toujours eu une nostalgie dans la langue et on peut en la dater précisément. Elle date du XVIIIe siècle. On croyait à l'époque que le français avait atteint son sommet avec Racine, Boileau et Quinault et qu'il n'avait fait que décroître. C'est ce que pensait Voltaire. C'est curieux. Voltaire, à l'époque où le français était la langue de l'Europe, disait Rivarol, considérait que non, on était en déclin et ce n'a pas cessé. On peut citer tous les auteurs qui disaient non, c'est fini, maintenant on ne parlera plus français. C'est le revers du purisme. Nous ne voulons pas que cette langue change et en fait elle change tous les jours. Nous n'aimons pas la variation, nous n'aimons pas la variante. Je crois qu'il faut voir ça de façon positive. C'est une langue vivante qui bouge.
Antoine de Rivarol, dont vous parlez d'ailleurs dans cette contribution à la revue Les Indispensables, à ce numéro du 1, Le français a-t-il perdu sa langue? Antoine de Rivarol, quelle était sa conception du français?
En tous les cas, pas la mienne, et pas celle, je crois, du président Macron. C'est-à-dire une conception d'abord essentialiste. Le français est essentiellement une langue claire, bien construite, c'est une langue dominante, c'est la langue unique. Il dit à un moment, c'est la langue humaine par excellence. Il faut se déprendre de l'essentialisme qui est mauvais dans d'autres domaines que la langue, bien sûr on le sait. Il faut considérer que le monde est plurilingue, qu'il y a de grandes langues internationales, que c'est une réalité, que le français a toute sa place. Le français n'est pas plus clair qu'une autre langue, son emploi a été très clair. À l'époque classique, bien sûr, c'est une langue qui a des qualités et des défauts, c'est une langue de culture qui a un rôle dans le monde différent de celui de l'anglais. Il faut le savoir et jouer cette carte-là.
Voilà une vision de la langue française, une universalité, la langue française exclusive, écrivez-vous. Une langue domine et doit dominer. Vous dites que longtemps, l'affection portée à la langue française et l'action menée en sa faveur furent rivaroliennes, c'est-à-dire essentialistes, aimant à citer les qualités éminentes du français, et impérieuses, invoquant par exemple ses prérogatives diplomatiques. On mesure combien la puissance actuelle de la langue anglaise déprime les disciples d'Antoine de Rivarol, écrivez-vous dans cette contribution, Bernard Cerchiglini.
Alors comment... Les disciples de Rivarol ne sont pas tous à droite, il y a des disciples aussi de gauche, le rivarolisme de gauche, c'est-à-dire le français, langue des droits de l'homme, etc. En fait, il faut se déprendre de cette conception-là, examiner la langue telle qu'elle est, dans son devenir et dans sa réalité. Rivarol disait « l'Europe parle français ». C'était l'Europe des châteaux, des salons et des intellectuels, ce qui n'est pas rien. On n'a jamais autant parlé le français dans le monde, depuis qu'il s'est distingué du latin. On ne l'a jamais autant écrit, on ne l'a jamais autant appris.
Qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça symbolise, ce discours, l'annonce de ce grand plan de relance de la francophonie sous la coupole de l'Académie française? D'ailleurs, c'était à l'origine à Villers-Cotterêts qu'il devait aller faire son discours, le président de la République, Emmanuel Macron. Il a choisi finalement l'Académie française. Est-ce que ça, pour vous, ça donne une impulsion quand même en faveur d'un français ouvert, moderne, vivant, prêt à s'adapter aussi à son temps?
Oui et non.
Parce que là, on est chez les gardiens du temple.
Voilà, vous l'avez dit. Oui et non. Oui, d'abord, il est évident que le président Macron est protecteur de l'Académie française. Il le sait. Ça sera un protecteur exigeant, attentif, un peu pesant même, comme le furent Richelieu, Bonaparte et Charles de Gaulle. C'est important que le président parle le 20 mars, journée de la francophonie. C'est le premier président à le faire. C'est important qu'il fasse un discours post-rivarolien, c'est ainsi que je l'attends. Tout cela est très bon. Le lieu maintenant, Villers-Cotterêts n'était pas un lieu tout à fait bien choisi. C'est un lieu très franco-français qui rappelle l'installation très importante, il est vrai, d'une juridiction royale et en français. L'Académie française, cela va de soi, il est protecteur de l'Académie, mais ce n'est peut-être pas le meilleur lieu pour mettre en place une politique, je cite l'invitation, une stratégie internationale en faveur de la langue française et du plurilinguisme. Il risque, ce faisant, de donner des gages à un certain conservatisme, mais qu'il sera sans doute dépassé.
Vous auriez choisi quoi, vous, comme lieu, Bernard Cerchiglini?
Ah, moi j'aurais choisi un lieu de passage, un lieu où on entend des tas de français, des tas de langues, peut-être une petite ville où il y a des étudiants qui viennent du monde entier et qui parlent le français avec des accents. J'aurais pris un lieu de montrant la francophonie dans sa diversité, dans sa richesse. Peut-être une université avec les étudiants venus de toute la francophonie. Mais c'est peut-être parce que je suis universitaire.
C'est quoi le français aujourd'hui? Vous qui avez écrit « Enrichissez-vous, parlez francophone », il n'y a pas un bon français, il y a une langue française qui s'enrichit de tous les français pratiqués dans le monde.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, grâce au travail des grammairiens au XVIIe siècle, on a bâti une langue solide, avec une très belle syntaxe, une morphologie sans très peu de variations, qui fait que nous nous comprenons d'un bout à l'autre du monde. Cela dit, il y a des accents, des mots, des expressions, toute une variété, toute une richesse qui fait que le français est mondial. Le problème de la France maintenant et de la Belgique, qui sont les berceaux, c'est que les Français et les Belges sont en minorité en francophonie. Ils ne peuvent plus prescrire une norme pour l'ensemble du monde. Le français de référence qui a pour base le français de la bourgeoisie cultivée parisienne, comme on dit, doit être mis en cause. Il faut accepter d'autres accents, d'autres formes, d'autres expressions. Et surtout ne plus sourire de la variété. C'est une richesse.
C'est une richesse et on peut l'entendre dans la bouche effectivement d'autres pratiquants du français que l'on pratique d'ailleurs, en tout cas quand on est vous, Bernard Cerchiglini, comme une religion. L'Express se moquait récemment gentiment des contradictions du président de la République et de ses récurrents helpers, team love, startup nation, business model et autres silver economy dans la bouche d'un président qui veut faire donc de la francophonie une grande cause de cette présidence. L'abus d'anglicisme reste dangereux pour la francophonie. Beaucoup le pense. Est-ce que là, on a dépassé quand même aussi une limite pour vous ?
Deux choses. D'abord, je nuancerai l'article de l'Express. C'était le candidat qui utilisait beaucoup d'anglicisme.
Alors, le président, c'est moi qu'il faut nuancer parce que c'est ce que précisait l'article de l'Express.
Encore une fois, Emmanuel Macron, à l'évidence, a eu son master exercice de la présidence de la République avec mention très bien. Il sait qu'il est protecteur de la langue. Et croyez-moi, son français, maintenant, n'est plus déparé d'anglicisme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la question des anglicismes. Quand on regarde les choses calmement, sur une cinquantaine d'années, il n'y a pas beaucoup plus d'anglicisme actuellement qu'il y en a eu il y a 10, 20 ou 30 ans. Simplement, ce ne sont pas les mêmes. Le propre de l'anglicisme, c'est qu'il frappe, qu'il énerve. Nous sommes tous un peu puristes. Il agace. Et c'est fait pour ça. L'anglicisme est fait dans la publicité pour qu'on retienne le message, dans la vie courante pour montrer combien on est snob, ainsi de suite. Ce qu'on ne voit pas, c'est la disparition de l'anglicisme. Le plus grand cimetière en France, c'est le cimetière des anglicismes morts dans l'indifférence. Je me rappelle quand j'ai acheté ma première chaîne Hi-Fi. J'étais content de m'acheter une paire de baffles de la marque Cabas. Qui dit baffle encore ? Nous disons enceinte, madame. Et on s'en est pas aperçu. Il y aura un dictionnaire à faire de mots français qui sont venus remplacer des anglicismes. Mais on s'en aperçoit pas. Ça se fait dans l'obscurité. Donc, le mot anglais arrive. Il arrive avec un concept nouveau qui vient de Californie ou un objet. Mais croyez-moi, la langue française le fait disparaître très souvent. Il y a beaucoup d'équivalents produits de façon spontanée ou grâce à toute la production officielle terminologique française, québécoise, belge, à qui on doit, ordinateur, logiciel, ainsi de suite.
Alors, à la place de Startup Nation, qu'est-ce qu'on pourra dire demain ou qu'est-ce qu'on dit déjà depuis hier ?
Une nation conquérante.
Une nation conquérante.
Voilà. J'en profite pour dire, je sais qu'à France Culture, on ne dit plus jamais fake news, on dit un fox.
Un fox.
C'est merveilleux.
Ça, c'est vous qui l'avez conçu ou quoi ?
Non, sans les terminologues, mais je le diffuse.
Bon, ben, on va transmettre l'information, qui est une vraie information, visiblement, selon
vous. Une primeur, on ne dit pas un scoop.
Ah non, d'accord. Bernard Cerquiglini, on va faire attention à notre langage. Pour vous, l'anglicisme n'est pas menaçant pour la langue française. Est-ce que, cependant, dans la mondialisation, la France peut trouver sa place ? C'est l'économie qui a absorbé le politique. Ça, il le répète souvent. Le philosophe Régis Debray, auteur de Civilisation, comment nous sommes devenus américains, paru chez Gallimard l'an passé, s'inquiète de la perte du français qu'il perçoit comme un dommage collatéral de l'américanisation de la planète. Écoutez.
La langue de la République est le français, article 2 de la Constitution. La langue de l'économie est l'anglais. Et la Nouvelle République met l'économie avant la politique. Donc vous ne pouvez pas à la fois admettre ou sourire au triomphe de l'économisme qui pour moi est la signature de notre époque et déplorer la fin du français parce que c'est l'un ou l'autre. Et surtout si c'est une entreprise multinationale. Airbus Industrie à Toulouse ou l'aérospatiale ou Sanofi en France, on ne parle qu'anglais. Donc, industrialisation de la culture, marchandisation des échanges, anglophonie généralisée égale américanisation de la planète, la France inclus. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que avant, on s'en rendait compte, on était un peu triste, comme vous. Aujourd'hui, ça se passe dans une certaine amnésie presque joyeuse. On est content d'être connecté et les dommages collatéraux tendent à passer à l'as. Bon, ça fait partie de ce que j'appelle un axe de civilisation nouveau. Voilà.
Bernard Cerquiglini, faut-il s'y résoudre ? Faut-il s'y résigner ?
Non, dans le livre auquel vous faites allusion, il y a un entretien sur la langue française entre Régis Debray et votre serviteur. Et j'ai essayé de nuancer le pessimisme de mon ami Régis Debray. Non, mais il faut être conquérant et se battre. Il est évident que certaines entreprises ont baissé les bras et sont passées à l'anglais. Mais par ailleurs, rappelez-vous le rapport Jacques Attali sur l'importance économique de la langue française. Les millions de personnes qui achètent, qui vendent en français. Il faut rappeler qu'il y a là un marché, qu'il y a là une puissance, un développement. L'Afrique de demain et je le sais par les universités dont je me suis occupé, est un lieu de formation supérieure, de techniciens. Il y a là un marché, un développement à faire. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut faire de la francophonie dynamique et conquérante.
Ce que vous dites, c'est que c'est aussi par l'économie que ce langage et que le français peut évoluer, peut se propager d'une certaine manière, mais il se pose la question des innovations, c'est-à-dire que beaucoup de produits naissent dans des pays anglo-saxons. On peut parler, par exemple, de ce téléphone qu'on a tendance à nommer par sa marque. Comment reprendre la main ? C'est-à-dire qu'il ne suffit pas à un moment de décider qu'on va trouver un mot français, comme, comment vous disiez, un fox pour Fox News, oui, ou, etc. Construire un langage alternatif ou ordiphone. Il faut aussi que ça passe par l'innovation que les Français peuvent mettre sur les marchés, puisque les mots circulent avec les produits.
Mais bien sûr, mais je crois qu'il faut innover, tout simplement. Innover en français. Croyez-moi, on innove en France, on innove au Québec, on innove dans les universités africaines en français. Pourquoi baisser les bras ? Pourquoi faire du rivarolisme à l'envers ? Puisque le français n'est plus la langue du monde, eh bien, passons à l'anglais. Il y a un esprit de collaboration extrêmement désagréable. Innovons, créons, avançons. Dans la langue française, on l'a toujours fait.
Et c'est là où vous dites que le français a de nombreux atouts, et notamment celui d'être une langue de science, d'être une langue savante. C'est-à-dire qu'on a tous les mots pour le dire, on a tout le corpus pour exprimer ce qu'on veut dire.
Peu de langues sont aussi équipées, passez-moi ce mot technique, que la langue française, en dictionnaire innombrable, en grammaire et en vocabulaire. Il y a eu de quelques grandes époques de création de vocabulaire, la Renaissance, bien sûr, le XVIIIe siècle, l'époque des Lumières, et maintenant. J'ai la chance de participer au choix des mots que le Petit Larousse retient chaque édition. Croyez-moi, c'est très difficile de ne prendre que 150 mots. Il y en a au moins le triple à chaque fois qui sont bien, bien formés, utiles, rentrer dans la langue.
Ils nous viennent d'où ?
Invention spontanée. Nous pensons que à peu près 20 000 mots sont créés en français tous les ans. C'est étonnant. Et ils sont utiles. Donc, il ne faut pas penser que seul l'anglais est capable d'inventer des mots, seul l'anglais est souple. Dans le livre que vous citez, Enrichissez-vous par les francophones, je cite plusieurs centaines de mots francophones tout à fait bien formés que l'on pourrait adopter. Vous savez, moi je note plus une date dans mon agenda, je l'agende, comme on dit en Suisse depuis le début du XXe siècle.
Ça, ce sont pour les mots qui sont créés, qui s'inventent chaque année. Et combien de mots se perdent ?
C'est difficile à estimer. Difficile à estimer parce que...
Vous en retirez combien du dictionnaire chaque année ?
Aucun. Vous savez, dans La vie mode d'emploi, Georges Perec a un personnage admirable qui s'appelle Albert Sinoc et qui est tueur de mots aux éditions Larousse. C'est un pauvre homme qui tue des mots, qui tue aussi des personnalités pour la partie non propre. C'est un mythe. On ne retire pas de mots ou seulement...
Ah, il peut y avoir des morts lentes et des morts naturelles aussi. Hein.
Ou des sommeils profonds. Regardez la maille, cette petite monnaie qui avait disparu depuis le 14e siècle et qui ne subsistait que dans avoir une maille à partie. Eh bien, regardez, les rappeurs maintenant l'utilisent tous les jours, c'est de la maille. Le mot était dans un sommeil profond, il a été réveillé. Et ces mots sont dans la littérature. Donc, il est difficile de dire qu'un mot est vraiment mort. Et donc, avec beaucoup de chagrin, tous les 10 ans, on est obligé de mettre en dehors du dictionnaire quelques mots.
Autre atout de la langue française, et vous le rappelez, et c'est intéressant, c'est cette idée que le français est aussi une langue de réseau. Et vous avez pu l'expérimenter à votre manière quand vous étiez recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. C'est un réseau de 800 universités qui utilisent la langue française dans un nombre de pays donc très important, mais ça va du Brésil à la Chine. On veut simplement montrer une petite indication, ça ne se résume pas au continent africain ni à l'Europe. C'est bien plus large. Quel maillage, sur quel maillage s'appuie cette diffusion de la langue française ? Qu'est-ce que c'est être une langue de réseau ?
C'est depuis toujours une langue qui fait de la solidarité, du politique, du lien. D'ailleurs, le premier texte écrit en français, dès 842, c'est très précoce, les Serments de Strasbourg, ce texte est un texte de diplomatie. Par lequel deux frères, Charles le Chauve et le Germanique, s'allient contre le frère aîné, empereur désigné. Donc on fait les noces du pouvoir et de la langue sont anciennes en France. Et même depuis la Révolution, c'est devenu un mariage à trois avec la nation. Donc, parler français, c'est toujours s'allier, s'intégrer, faire du lien. Et j'explique la francophonie ainsi, c'est-à-dire c'est l'extension au monde de ce réflexe de faire du lien social. Quand Senghor, Bourguiba, Niouri, présidents de pays indépendants, ont voulu s'associer, ils ont eu l'idée de le faire sur la langue française. Et l'agence que j'ai la chance et le bonheur de présider a été créée il y a plus de 50 ans à Montréal, à l'époque de la Révolution tranquille, par une quarantaine de présidents et de recteurs d'université qui se sont dit, ben voilà, nous sommes autour d'une table, nous allons faire une association. Mais pas un club. L'association, elle avait un but d'aide au développement. C'était l'époque aussi des indépendances. Les universités africaines allaient se développer. Elles avaient besoin de tout. Et dès la fondation, l'AUF, qui s'appelait à l'époque l'Association des universités entièrement ou partiellement de langue française, dans sa mission de base, il y avait l'aide au développement. Donc, je vois dans le français l'idée du maillage, pour reprendre votre mot, mais aussi l'idée de la solidarité. Ça distingue le français, par exemple, de la langue anglaise.
Elle est très sympathique, votre langue française, Bernard Cerchiglini. Elle est généreuse, elle est curieuse aussi, et elle se partage. Ça, c'est la francophonie avec un petit F, mais on peut aussi évoquer la francophonie avec un grand F. Et là, pour employer un terme qui va vous fâcher, on ne peut pas dire que quand même la francophonie ne soit pas aussi un outil de soft power. Aujourd'hui, on peut en revenir à Rivarol. C'est vrai qu'il y a quand même, de la part des langues, une tendance à la domination. Et c'est aussi le cas pour le français aujourd'hui encore, n'est-ce pas ?
Disons d'influence, c'est évident. Il ne faut pas être innocent. La première grammaire écrite de l'espagnol, dès la fin du XVe siècle, commence par la phrase suivante « Toujours la langue a été proche du pouvoir ». C'est évident. Donc, c'est vrai que le français doit garder sa place dans le monde. Il faut donc avoir une politique, je disais tout à l'heure, conquérante et dynamique. Rappeler que c'est une langue de science, d'enseignement supérieur, de recherche... monter des programmes, des soutiens, des aides, et ça c'est le rôle de la francophonie, par l'agence universitaire, par les médias, TV5 Monde, par l'association des maires francophones. Il y a toute une activité associative très importante en francophonie et très pratique. L'AUF, ce sont des bourses, des campus numériques, des laboratoires soutenus, des jeunes collègues qui vont faire un post-doc ailleurs, ainsi de suite.
Et
j'ai dit post-doc.
Vous avez dit post-doc. Quel est l'enjeu du coup pour la France d'être en tête de cette conquête ou de cette reconquête par le français ?
Peut-être que le président Macron parlera d'une France en tête de cette reconquête. Moi, je pense qu'elle est un des pays. On est francophone ou on l'est pas. Je crois qu'il faut jouer la carte. Nous marchons, nous travaillons, nous luttons dans la même équipe que les Québécois, les Belges, les Sénégalais, ainsi de suite. Alors, bien sûr, si certains veulent que la France reste en tête, pourquoi pas ?
Outil de domination, outil aussi de séduction, et c'est ce qu'on peut voir dans les rapports diplomatiques ou les relations diplomatiques aujourd'hui. Et vous le rappelez, on sait qu'il y a aujourd'hui aussi des pays qui sont rétifs à l'hégémonie linguistique anglo-saxonne, qui peuvent aussi accueillir de manière bienveillante le français comme un contre-pouvoir, d'une certaine manière, à l'anglo-saxon. Quels sont nos alliés ou qui sont nos alliés dans cette bataille de la langue française ?
Ils sont parfois inattendus. En effet, nous brandissons le drapeau du plurilinguisme. Nous rappelons que le monde est plurilingue, le monde de la science est plurilingue. Et nous avons des alliés inattendus. Par exemple, les Brésiliens. J'ai tenu une assemblée générale de l'agence universitaire à São Paulo, au Brésil. C'est étonnant. Il y a beaucoup d'universités brésiliennes adhérentes. Elles sont très dynamiques, car les Brésiliens parlent portugais, dans un univers plutôt hispanophone. Ils savent qu'une partie de la science se fait en anglais. Ils sont naturellement dans le plurilinguisme. Et il y a au Brésil une tradition francophile, rappelez-vous Lévi-Strauss, etc., qui fait que les sociologues, les historiens, toutes les sciences humaines se font principalement en français, dans un dialogue de plusieurs langues. Nous avons à l'époque financé une revue numérique qui était en portugais et en français. Voilà un bel exemple de, d'une politique qui passe par le plurilinguisme. Le français est, est là pour rappeler que la science, la pensée se fait toujours en plusieurs langues.
Mais ça vaut aussi, ou ça devrait devoir aussi pour les langues minoritaires en France, n'est-ce pas? Du coup, cette réflexion sur le plurilinguisme, de se dire que le français n'est pas exclusif et qu'il peut, et qu'il n'en sera que plus fort à laisser vivre aussi d'autres langues à côté. Donc, quelle place laisser aujourd'hui aux Corses, aux Bretons, aux Basques? Est-ce que ça, c'est une réflexion qui va être aussi engagée au niveau de l'État?
Je l'espère, en tous les cas, c'est vous pas un savez sujet sans nouveau, doute, hein. Je suis l'auteur d'un rapport en faveur des langues de France, et on est francophone ou on l'est pas, on est pour la diversité, le plurilinguisme, on l'est pas. Je le suis, c'est-à-dire que je trouve qu'une des chances de la France, c'est qu'elle a un patrimoine linguistique immense, et qu'un certain rivarolisme devenu jacobin, excusez-moi, mais je crois que il n'y a pas de contradiction dans les termes, un certain rivarolisme devenu jacobin a voulu exclure ces langues et à tort. Nous avons tous une langue officielle par laquelle nous communiquons, c'est le français, mais par ailleurs, nous avons une multitude de langues régionales, d'immigration et autres, qui nous rendent plus riches intellectuellement, plus forts.
Qui sont des langues et qui ne sont pas des patois uniquement.
Ben, certainement pas, qui sont des langues, voilà, des langues de France. J'ai voulu créer cette expression, comme on dit, le patois, les cathédrales, les châteaux, la culture de la France, c'est un très riche patrimoine. La France, vous vous souvenez aussi, c'est aussi la Guyane, c'est aussi la Nouvelle-Calédonie, et j'étais arrivé à 75 langues pour la France.
75.
Mais oui, ce n'est pas seulement le basque et le breton et le corse. Mais oui, on parle wayana aussi en France, c'est une langue de France.
75 langues, il nous en reste quelques-unes à apprendre. Merci Bernard Cerchiglini pour ce rappel. Vous êtes linguiste, vous êtes recteur honoraire de l'Agence universitaire de la francophonie. Vous êtes surtout l'auteur, il y a deux ans, de « Enrichissez-vous, parlez francophone ». Vous êtes l'un des contributeurs du nouveau numéro des Indispensables du journal Le 1. Le français a-t-il perdu sa langue, sous la direction d'Éric Fotorino? Et vous serez cet après-midi aux côtés d'Emmanuel Macron, en tout cas dans la salle, sous la coupole de l'Académie française, pour écouter, entendre ce grand plan offensif de défense de la francophonie qui nous sera donc présenté. France Culture, il est 13h20.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Et peut-être retrouverez-vous, non loin de là, la nouvelle représentante personnelle du chef de l'État pour la francophonie, c'est l'écrivaine Leïla Slimani. Comment entend-elle défendre la francophonie, ou en tout cas la représenter? Écoutez.
Je suis un électron libre qui essaye de réfléchir et d'aider. Et moi, je suis absolument persuadée, ma conviction intime, c'est que chaque Français et chaque francophone doit devenir aussi l'ambassadeur de la francophonie. Je pense que les chefs d'entreprise, les publicitaires, tous les gens qui travaillent, les professeurs eux-mêmes doivent finalement prendre en compte cette chose-là et cette priorité. Pour beaucoup de gens, finalement, aujourd'hui, la langue française est considérée à la fois comme une langue magnifique, mais très complexe, comme une langue de lettrés, comme une langue de boudoir, on discute dans les salons, etc. Mais ça n'est malheureusement plus vu comme une langue utile, une langue pragmatique, une langue qui sert à trouver du travail. Voilà, c'est pas ringard de parler français, de faire des slogans en français. On peut s'amuser, on peut jouer aussi là-dessus. Et je pense que si on parle à des publicitaires, si on parle à des gens qui ont aujourd'hui une voix forte et qu'on leur dit ça, je pense que les gens sont ouverts aussi à cette idée. Oui, on est français, mais moi je peux demain, grâce à cette langue française, aller parler avec quelqu'un au Togo, au Brésil, en Chine, au Maroc. Et cette idée-là, je pense qu'elle est très importante et dans une période comme la nôtre, dans une période où il y a le danger de la xénophobie, où il y a cette envie dans beaucoup d'endroits du monde d'ériger des murs et de dire que chaque culture est enfermée sur elle-même et qu'il y aurait une sorte de conflit des civilisations. Je pense que justement la francophonie, elle dit exactement l'inverse.
Que dit-elle exactement pour vous?
Écoutez, c'est très sympathique. Voilà une belle image de la francophonie moderne, dynamique et prononcée par une femme. Le français est moderne. Je rappelle qu'il vient de connaître son plus grand changement linguistique et le plus rapide changement linguistique de toute son histoire. L'inscription de la parité dans la langue. On a une langue française qui a su, en quelques années, en France, en moins de 15 ans, féminiser les professions, ce qu'elle ne faisait pas si bien depuis le 18e siècle. Voilà un exemple d'une langue, et c'est pas passé inaperçu. Il y a eu des querelles, l'Académie française est toujours opposée à ce qui est un usage général, mais la langue française a su créer des féminins et les employer. Pour l'historien de la langue, c'est très spectaculaire que je suis, hein. Et c'est francophone, excusez-moi. Le mouvement est parti du Québec, passé en Belgique, en Suisse, et avec un peu de retard, à cause du purisme, il est venu en France. Voilà un mouvement.
Le français est affaire, ou est l'affaire de tous, c'est ce que nous rappelle aussi Leïla Slimani. Est-ce que pour autant, vous comprenez les réserves et les mises en garde d'écrivains, de penseurs, comme Alain Mabankou ou encore comme Achille Mbembe, qui récemment encore disait, et notamment dans les colonnes de l'Obs, que le concept de francophonie ne doit pas être détourné, récupéré politiquement, et qui mettait en garde aussi contre les dangers d'une forme d'ethnocentrisme et de colonisation culturelle à travers la langue.
Je comprends leur inquiétude.
Il y a une longue tradition en la matière, il faut peut-être le dire.
Très longue, en effet. Elle est double. D'une part, les deux rappellent qu'on a tendance à dire la France et la francophonie. Dans les libraires, dans nos librairies, et même dans nos bibliothèques souvent, il y a un rayon littérature française, un rayon francophonie. C'est une première inquiétude. Deuxième inquiétude, c'est ça. C'est-à-dire, une sorte de renfermement entre nous, alors que le dialogue est au cœur de la francophonie. Et les deux sont très, très impliqués dans le dialogue des langues, en particulier les langues africaines. Je crois que si le français ne dialogue pas avec les autres langues, il a perdu sa vitalité. Ce n'est pas, la francophonie n'est pas un bocal.
Donc il faut partager là aussi cette réflexion. Mais Leïla Slimani, elle est représentante, mais elle n'a pas de ministère, elle n'a pas de secrétariat d'État. Quels moyens elle va avoir pour mener sa mission à bien ?
Alors, en effet, on peut s'étonner qu'il n'y ait pas même de secrétaire d'État à la francophonie. C'est la première fois depuis bien longtemps. C'est le Premier ministre Jacques Chirac qui avait créé une secrétaire d'État auprès de la francophonie. Il n'y en a pas, on peut le regretter, mais l'observer. Par ailleurs, chaque chef d'État a un représentant personnel auprès de la francophonie, qui vient siéger à sa place. C'est ce que fait Leïla. Elle est représentante personnelle, donc ce représentant n'a pas d'autre autorité que morale. C'est le ministre ou la ministre de la francophonie qui d'ordinaire a les moyens. Cette fois-ci, c'est plutôt un peu plus dilué dans le Quai d'Orsay, bien qu'il y ait un service des affaires francophones dirigé. Mon sentiment, c'est que on peut voir les choses d'une façon positive, c'est dans ma nature, vous l'avez compris, c'est que nous avons un ministre de la francophonie, je crois que c'est le président de la République, il va le montrer tout à l'heure.
À suivre donc cet après-midi, où en est-on des budgets, vous qui avez suivi ça un peu au niveau des universités, c'est important que les alliances françaises, c'est important que les instituts, que les lycées français partout dans le monde aient les moyens de fonctionner. Pourquoi ? Parce que toutes ces petites places fortes contribuent aussi au rayonnement culturel et à la diffusion de la langue. On a vu des budgets qui étaient en hausse puis en baisse. Est-ce que ça va repartir à la hausse ? Est-ce que finalement cette diffusion du français ne passe pas avant tout par l'éducation et par l'apprentissage ?
Nous avions parlé plus haut de contradictions apparentes ou réelles. En voici une. Les budgets ne sont pas en extension, c'est tout, ils sont en baisse.
Dites-le plus fort, on ne vous entend pas.
Les budgets baissent, c'est évident. Et j'ai vu, pendant les 8 ans de mon rectorat, la contribution française baisser nettement, malgré toutes mes protestations. C'est vrai, et donc il faut faire mieux, plus, avec moins, c'est un problème. Quant aux alliances françaises que vous citez, elles sont en autofinancement, et elles marchent bien. Elles sont toutes autofinancées, et croyez-moi, elles refusent du monde. C'est un réseau qui va bien. Le réseau qui nous inquiète tous, c'est le réseau des instituts culturels français, financé par la France, on voit beaucoup de fermetures en ce moment. C'est regrettable parce que c'est un rôle d'influence extraordinaire. Et vous en souvenez peut-être, quoique vous soyez très jeune, madame, mais à l'époque où le rideau de fer allait s'effondrer, où il y avait des mouvements, c'était dans les instituts culturels à Sofia, à Berlin-Est, que des opposants venaient s'exprimer. Ces instituts ont toujours eu un rôle politique discret, mais très, très important. Ils représentent l'inscription des valeurs qui nous sont chères dans bien des pays. Il ne faut pas les fermer. Mais ça coûte 3 sous. Et cela rapporte énormément de sympathie pour la France, pour les valeurs de la francophonie en général. Je plaide pour que les budgets arrêtent de baisser. J'ai prononcé clairement le verbe.
Vous l'avez clairement dit. Oui, d'autant plus qu'il y a, il est affaire de qualité dans tout cela, et vous l'évoquiez avec cette diversité du français tel qu'il peut être pratiqué partout dans le monde. Mais pour le président de la République, il semble aussi que la question de la quantité soit importante. Alors, nombre de locuteurs, il est amené à augmenter naturellement partout dans le monde, et notamment grâce à l'Afrique, continent locomotive, avec ou sans Emmanuel Macron. Ça, c'est la question démographique qui le motivera. On peut accompagner, valoriser cette évolution. En dehors du nombre de locuteurs, il y a aussi le nombre d'apprenants. Si on prend simplement l'exemple de l'Inde, il est intéressant. 500 000 apprenants du français en Inde. Ça, cet apprentissage passe justement par les centres culturels, les alliances, comme on l'évoquait, les instituts qui peuvent donner envie à cette jeunesse indienne de passer par le français. L'Inde sera d'ailleurs le pays invité du Salon du Livre en 2020. On se surprend quand même à entendre le président Emmanuel Macron parler en français et en anglais, et qu'en anglais quand il fait sa visite en Inde. C'est le choose friends qu'il a pu exprimer, qui se serait peut-être bien compris aussi en français. Où est l'enjeu là sur la question du nombre de locuteurs ou d'apprenants pour vous?
Deux choses différentes. Pour les apprenants, c'est clair, c'est une expansion. L'Inde, la Chine, qui ouvre une dizaine de départements universitaires de français par an, qui a de très très nombreux apprenants de français, une chaîne francophone très dynamique. Pour les locuteurs, il faut faire attention. L'OIF a produit un rapport très sérieux tous les ans. Il faut voir s'il s'agit de locuteurs de langue maternelle ou langue seconde, si le français est vraiment pratiqué. Et puis, je ne crois pas à cet argument rassurant des ventres africains. On a l'impression que la natalité africaine va sauver le français. D'abord, c'est pas très agréable pour les femmes africaines. Deuxièmement, on peut souhaiter qu'elles réduisent leur natalité pour des raisons personnelles, et j'espère qu'elles vont le faire. Et troisièmement, il ne s'agit pas seulement de mettre au monde des enfants, il faut qu'ils aillent à l'école, qu'ils aient de bons maîtres, de bonnes maîtresses, et dans des endroits, des conditions solides. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas s'endormir et penser que la natalité, la démographie va sauver le français. Il faut faire une politique, et une politique d'éducation.
Trois choses.
L'éducation. L'Afrique doit recruter dans les années qui viennent 1 million d'instituteurs et d'institutrices.
Merci beaucoup. Merci mille fois à vous, Bernard Cerchiglini. Vous serez donc cet après-midi à l'Académie pour écouter les contours de ce grand plan concernant la francophonie et la langue française qui sera annoncé. N'oubliez pas de retrouver à partir de 18h Du Grain à Moudre qui poursuivra la réflexion. Francophonie, une arme de domination. Hervé Gardette en parlera avec ses invités. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table.